Sexploration sur RCN. Lucille Bach.
On parle beaucoup de baby blues, très peu de sex blues. Après une grossesse, un accouchement ou même une fausse couche, la sexualité est très bouleversée. Bienvenue dans Sexploration, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle sur ta sexualité. Salut Chloé.
Salut Lucille.
Je m'ai remémoré récemment une conversation que j'avais eue avec une amie de longue date sur la charge mentale et physique que peut engendrer la grossesse et même donc la fausse couche. Toi, en tant que sexologue, est-ce que tu peux me dire comment notre rapport au corps il change en fait vis-à-vis de cette grossesse? Donc je pense, on va déjà faire la partie avant, pendant et après, je sais qu'il y a beaucoup de phases, et même par rapport à la fausse couche en elle-même, qui est un sujet très très tabou.
Alors effectivement, la grossesse, comme tu dis, c'est un grand, grand et vaste sujet. La grossesse commence pour moi à partir du moment où l'idée d'un enfant émerge et que tu fais des essais. Tout ça, je dis ça parce que simplement, il va y avoir des parcours PMA, il va y avoir des gros parcours sur l'assistance qui va être fait, qui va être médicalisé, où on a énormément de choses qui vont se mettre en place, des piqûres, des choses comme ça. Enfin, ça va être un gros parcours du combattant. Et même dans une grossesse, entre guillemets, classique, on a encore une fois plein de petites embûches, et pas des moindres des fois, qui vont se mettre aussi en place. Il y a le corps qui change, il y a aussi toute l'énergie que ça te prend, mine de rien. Fabriquer un bébé, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, il va y avoir vraiment tout, comme tu disais, le pendant qui va être du stress. Est-ce que un bébé va bien? Est-ce qu'il va bien grandir? Est-ce qu'il va me ressembler? Enfin, ça peut être des questions qui paraissent très existentielles, mais finalement qui sont vraiment dans le quotidien des femmes. Encore une fois, quand tu disais, il y a des changements en plus hormonaux, donc on est des fois bien plus sensible qu'à d'autres moments.
Et concernant la fausse couche, du coup, un peu la même question aussi.
Pour moi, la fausse couche fait partie intégrante d'une vraie grossesse. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire que ça n'a pas existé, que c'était un essai, c'était pas viable. Bon, on recommencera. Tu vois, cette idée de finalement, je trouve que ça fait, et ça va être un peu violent le parallèle que je vais prendre, mais c'est tout aussi violent pour les femmes qui les traversent, c'est finalement, ma portée de chiot, elle a pas pris, c'est pas grave, on la fera recommencer. Non, clairement pas, il faut se dire que c'est une grossesse, c'est plein d'espoirs qui sont mis dedans. De plus, s'il y a eu un parcours pour aider un petit peu à la grossesse à se mettre en route, c'est une grossesse, ni plus ni moins, et c'est un deuil, ni plus, ni moins.
Après toutes ces phases de la grossesse, est-ce qu'on peut encore se sentir désirable? Parce que, on va dire, notre corps et même notre mental a été assez bousculé, on est fatigué, on a été chamboulé physiquement aussi. Donc on est, entre guillemets, en train de se modifier, on est en train de muter. Voilà. Et parfois, on se sent même un peu brisé.
Oui, alors encore une fois, tu as plein de parcours différents. Sur la grossesse, tu en as qui vont la vivre très bien. C'est-à-dire qu'être enceinte, elles adorent ça. Elles se trouvent magnifiques pendant la grossesse, etc. Très bien, parfait. Et tu as des femmes qui, soit vont se sentir bien, mais qui détestent être enceinte. Ça, c'est une réalité. On la met toujours sur la table, mais on a le droit, en fait, de ne pas aimer être enceinte. Qui n'aiment pas les symptômes associés et qui ne se trouvent pas belles pendant la grossesse et qui n'aiment finalement pas ça. Mais c'est aussi une réalité et ça ne vaut pas moins que quelqu'un qui se sent bien. C'est, finalement, on la traverse bien comme on veut. Par contre, si on sent qu'on a besoin d'aide pour la traverser, il faut tendre une main.
Souvent, notre libido, elle est impactée aussi,
bien
fortement.
Sûr.
Soit elle chute, il n'y a plus rien, soit c'est l'explosion totale, on a tout le temps envie. Pourquoi ?
Ça, c'est encore ce fameux jeu des... voilà, exactement. Alors, pour vous décrire un petit peu, Lucille faisait le yo-yo avec ses mains, mais c'est totalement ça, ça va être les hormones en folie. Il va y avoir des personnes différentes où, effectivement, elles seront intouchables pendant cette grossesse parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent. Il y a déjà, effectivement, hormonal, mais il y a aussi des personnes qui vont sacraliser la grossesse, c'est-à-dire que c'est un moment où, effectivement, on donne la maternité et il n'y a pas lieu de sexualité dedans. Il y a effectivement des femmes qui vont avoir très envie et le mari est très content, hein, tout se passe très bien. Mais il peut y avoir aussi le fait que c'est le mari qui sacralise la grossesse et qui ne veut plus toucher sa femme parce que bébé est là, parce qu'on a peur de le toucher. Enfin, toutes ces images qu'on a aussi, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer ni l'un ni l'autre. On vit ça du mieux qu'on peut, c'est déjà une grosse épreuve. Donc c'est se dire, on va souffler un coup, on remet l'église au milieu du village. on est déjà en train de changer notre couple en parents. Être parent, c'est pas inné, ça s'apprend sur le terrain. On ne sera pas parfait et déjà se renseigner, se cultiver sur comment va se passer un peu tout ça, ça permet aussi de dégrossir un peu le trait et d'avoir moins peur si on met les pieds dans l'univers de la grossesse.
Est-ce qu'on peut rassurer sa partenaire du coup hein, qu'on peut faire l'amour quand on a une grossesse en cours?
Alors effectivement, c'est lui montrer, alors ça peut être très bateau, mais finalement une planche anatomique avec sans bébé, avec bébé, pour qu'il voit où il est positionné. Que ça n'a rien à voir, il est logé bien dans l'utérus, qu'en général il n'y a pas de pénétration de l'utérus mais du vagin. C'est aussi deux choses qui sont à différencier. Effectivement, il peut y avoir des remous du ventre, hein. Sinon on a des remous du ventre dans le sexe hors grossesse, il y a forcément des gestes et des mouvements qui vont se faire. Mais pour le bébé, que ce soit une marche rapide ou du sexe, pas sûr qu'il fasse la diff.
On disait qu'il y avait beaucoup d'étapes durant la grossesse. On a le corps qui change beaucoup aussi, qui modifie comment on peut renouer avec son corps, quelles ressources on a.
C'est en prendre soin le plus possible et déjà se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un bébé, de donner la vie. On a la chance de pouvoir le faire. C'est quand même quelque chose qui est juste... On dit que c'est la plus belle chose du monde. Et effectivement, ça l'est. C'est se dire, on est déjà en train de faire ça. Je ne peux pas non plus m'en demander 30 000 derrière. Je ne suis pas Shiva. Je vais prendre soin de moi. On soigne sa peau pour qu'elle suive le rythme de la poussée du ventre. On soigne son alimentation pour être le mieux possible.
Je vais partir sur une phase plus sociétale. On a eu quelques informations quand même en disant oui, il serait peut-être bien de faire une reprise rapide, de faire des bébés, etc. Pourquoi elle nous demande autant ? C'est vrai que dans notre société, je pense qu'on a de moins en moins envie de faire d'enfants. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oh bah oui, c'est un constat. C'est-à-dire que le constat français aujourd'hui, c'est que les gens ont de moins en moins envie de faire des enfants. On se dit, bah oui, mais c'est parce que c'est des jeunes vieux, surtout la génération 90, on est pris pour des enfants juste adultes. Alors, effectivement, dans un sens, mais dans l'autre, on ne se pose pas la question de pourquoi ces gens n'ont plus du tout envie de faire d'enfants.
Oui, c'est ça.
Ça coûte un bras. On a déjà plus l'accessibilité au logement comme on pouvait l'avoir. On n'est pas sûr de pouvoir tous se remplir le frigo jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est ça. La réalité de terrain, effectivement, c'est est-ce que je peux inclure un bébé là-dedans ? Ça me paraît compliqué. Si on rajoute le contexte sociopolitique en plus, bon, et l'écologie en plus, bon, effectivement.
Comment on fait pour retrouver sa libido comme avant, post-grossesse ?
Alors, le post-grossesse, c'est prenez votre temps. C'est vraiment cette idée préconçue, comme tu disais tout à l'heure, de... c'est bien si on s'y remet tôt, qu'on vous foute la paix. qu'on vous foute la paix. Ouais. Et je suis très catégorique là-dessus parce qu'on dit souvent qu'une vraie grossesse, finalement, ça dure 2 ans. Si on prend vraiment la réalité de terrain, le temps que le projet se fasse, donc tout le stress en amont, que les 9 mois se passent, que le retour à la maison se passe bien, que le petit fasse ses nuits, etc. Et que le bordel hormonal et corporel qu'on a subi passe, ouais, 2-3 ans, ça me paraît pas déconnant. Et c'est pareil, il faut essayer de se dire qu'il faut arrêter cette idée du papa qui n'est jamais dans tout ça. On voit que d'un côté, on leur donne plus de congés paternité, ce qui est vraiment très bien, mais on n'a toujours pas cette valeur, pour moi, du père. C'est-à-dire que c'est finalement accessoire. Alors effectivement, dans le passé, il y avait ce côté très « c'est à la mère de gérer », etc. Aujourd'hui, en 2025, on voit qu'il y a énormément de papas qui veulent s'intégrer à tout le parcours de la grossesse et qui veulent vraiment leur rôle de papa, qu'on leur laisse leur rôle de papa.
On est d'accord. Et justement, on parlait d'absence, de désir absent. Comment on peut réussir à se libérer de cette culpabilité, parce que ça génère forcément ce type d'émotion. Comment on peut réussir à s'en débarrasser, si je peux dire, ou du moins la temporiser, pour qu'elle se calme.
Mais c'est reprendre la réalité des choses, un petit peu dans la réalité, c'est se dire, ok, je manque de sommeil, je suis même pas sûre d'avoir le temps de m'asseoir pour prendre mon repas tranquillement, ou au moins avoir les bras libres de le faire, ne pas le porter, ne pas lui donner le sein sur le sein ou le biberon, bref, On a tout ça, et en plus toute cette culpabilité de maman, de justement, des idées encore préconçues, de « ouais, mais je l'allaite pas, donc je suis pas une bonne maman », enfin tous ces trucs un peu vulgairement à la con, qu'on met en place en plus, et qu'on fait vraiment, mais on rend les femmes très, comment dire, victimes de leur grossesse, c'est-à-dire qu'elles ne feraient jamais le bon choix, et elles sont jamais assez bien, et puis il faut faire ci, et puis non, en fait, il faut faire cela, puis il faut les éduquer comme ça, et pas Montessori, et Ghettosori. Stop, on fait déjà du mieux qu'on peut. Donc quand on a déjà toute cette charge mentale, forcément la libido elle va passer en der dans le cerveau, parce qu'il faut déjà qu'on s'occupe de l'enfant, qu'on s'occupe de soi, qu'on s'occupe du quotidien, et après on verra si on a le temps pour la récré. Donc quand on a ça en réalité, on se dit ah oui, on va peut-être souffler deux minutes, c'est peut-être un peu normal qu'on sache pas jouer Bach alors qu'on n'a pas le temps quoi.
Ni pour Bach ni pour Beethoven.
Exactement.
Et justement pour un petit peu déconstruire ces injonctions autour du sexe postpartum, on va essayer de réinventer en fait notre intimité, on peut le faire gentiment au fur et à mesure. Enfin, le but c'est de récupérer déjà toute cette aventure qui a été, comme tu dis, une charge mentale et même physique aussi dans tous les cas, dans les deux cas. Et se retrouver un peu au fur et à mesure, comment on va réinventer gentiment notre intimité?
Mais c'est simplement déjà réussir à avoir une proximité qui revient si on l'a perdue pendant la grossesse. C'est se dire, bah, ne serait-ce que, je prends un exemple bête qui me revient, que j'ai vu en cours avec Jacques Weinberg, c'est une femme qui a subi justement voilà, une césarienne, que l'homme puisse toucher la cicatrice, puisse la caresser au même titre que le reste du corps avec le même amour, finalement c'est déjà se réconcilier avec tout ça. Parce qu'on a un corps qui a changé, mais on l'adapte, on touche, on le reprend dans la même mesure qu'avant, c'est-à-dire qu'on a un corps qui a changé peut-être, mais qui est toujours le même finalement, on n'a pas changé de peau entre-temps, on n'a pas changé qui on était, on a changé certains aspects de nous-mêmes. Donc ne serait-ce que reprendre de la tendresse ensemble, laisser la pénétration de côté, effectivement, pour le moment, c'est pas le bon moment, en tout cas, sauf si on en a envie. Ça, c'est faites-vous plaisir.
Et que c'est faisable.
Voilà, et que c'est faisable. Allons-y. Mais c'est ne pas aller dans ce truc de on se force à le faire parce qu'il faut le refaire, et puis si ça fait mal, bah tant pis, serre un peu les... Non, ça, on oublie totalement, c'est on s'écoute soi-même.
On va faire un petit focus sur les tabous de la fausse couche. J'aimerais en parler un peu plus. Pourquoi il y a peu d'infos sur la sexualité après une fausse couche?
Bah parce que c'est un sujet qui est gênant. C'est quand quelqu'un nous dit qu'il a fait une fausse couche, en général, soit on ne sait pas quoi dire, soit on est maladroit, soit on connaît le sujet. En général, c'est parce qu'on l'a vécu ou parce qu'on est renseigné. Mais la plupart du temps, c'est vécu comme la plupart du commun des mortels, comme une grossesse qui n'a pas ou peu existé. Donc, finalement, il n'y a pas de sujet. Parce que, bon, bah, elle a perdu le bébé, mais finalement, bon, elle n'a pas vécu d'accouchement, il n'y a pas de modification plus que ça, donc je ne vois pas pourquoi elle aurait du mal à reprendre une sexualité. Ah non.
Elle a vécu quelque chose. Hein.
Elle a vécu soit un accouchement, entre guillemets, forcé, soit elle a vécu une perte de son bébé à un moment où elle s'y attendait clairement pas. Soit c'était programmé. Il y a tellement de façons de perdre un bébé, même qui n'est pas encore construit, qu'il faut vraiment se dire, mais elle a vécu cette épreuve, et si elle le vit comme ça, je dois m'adapter à comment elle le vit. Il y a des femmes qui y arrivent très bien, il y a des femmes qui arrivent à raisonner, il y a des femmes qui vont être dans l'émotion, et il y a des femmes pour qui c'est un deuil, un vrai deuil. Et ça reste un vrai deuil, effectivement. Donc, en général, on n'a pas trop envie de faire l'amour quand on vit un deuil. Est-ce que c'est bizarre et anormal? Non.
Non, puis simplement, on a été impacté, que ce soit sur notre image mentale de soi, que ce soit sur notre lien avec notre corps. Et puis, à ce moment-là, on a peut-être aussi besoin de souffler.
Et puis, son cerveau, oui, et puis son cerveau, il peut aussi se dire, bah, finalement, j'ai peur de peut-être retomber enceinte tout de suite avec ce qui m'est arrivé. Bah, non, j'ai pas envie de reprendre le risque.
Oui, c'est ça. Et puis, toute l'épopée qu'il y a eu juste avant d'avoir vécu cette grossesse, et puis que finalement, ça n'a pas... Alors, peut-être un terme un peu froid, mais abouti entre guillemets à le souhait désiré, mais bah, malheureusement bah, on est obligé de se poser et d'avancer.
Bah, on va prendre un parallèle, alors là ça va être un peu de l'humour, mais de l'humour noir, hein. C'est finalement est-ce que après avoir enterré votre grand-mère, vous avez vraiment envie de faire l'amour? Bah, il me semble pas, enfin, quand on enterre un proche, on n'a pas envie d'aller danser la carioca en général, Donc pourquoi elle aurait envie de quoi que ce soit ?
C'est ça, sinon c'est d'autres façons de faire et d'aimer la sexualité, mais ça on n'en parlera pas. comment faire l'amour quand le corps il est associé à une perte justement ? Que ce soit soi qui a cette vision ou même le partenaire qui a cette vision ?
C'est passer le deuil pour les deux personnes. Déjà, passer cette période de deuil peut permettre de retrouver quelque chose. Tant qu'on est dans un deuil, on aura beaucoup de mal ou on n'y arrivera pas. C'est vraiment être le mieux accompagné possible dans ce moment-là. Et quand on est prêt, prendre le temps et prendre son rythme à soi. C'est-à-dire qu'on ne s'impose rien. Si pour l'instant on a peur ou on n'a pas envie de cette pénétration, on ne se l'impose pas. C'est vraiment tranquillou, milou.
Maintenant, on va écouter Soleil Bleu de Luisa. On se retrouve dans quelques minutes.
Exploration sur RCN.
Précédemment, on disait qu'il fallait prendre le temps de souffler, de se retrouver, de réapprendre à communiquer aussi, notamment suite à une fausse couche. Comment on retrouve une intimité sans pression ? On va faire une petite transition comme ça.
Eh ben, l'intimité sans pression, c'est déjà voir à quel point ça a impacté l'un et l'autre. Il ne faut vraiment pas oublier les deux dans ce moment-là. Que ce soit couple hétéro ou homo, hein, c'est simplement se dire comment l'un et l'autre l'ont vécu. Et je dois respecter ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi je l'ai vécu d'une manière différente qu'elle n'a pas le droit d'être dans cette phase-là ou dans cette phase-là. On prend le temps, on se soutient, on s'épaule. Une fois qu'on a passé cette grosse étape, on peut déjà commencer à souffler, à s'octroyer du temps de qualité ensemble, à s'octroyer des sorties qui nous font du bien, qui nous font rire. Et c'est pour moi la meilleure thérapie, c'est quand on commence à avoir des moments où on a le droit de rire, on se sent bien quand on rit et qu'on ne culpabilise pas. On est déjà sur le chemin de la sensualité.
Pour reconstruire cette vie à deux notamment, ou seul, hein, ça dépend dans les cas de figure, mais pour se reconstruire tout court, comment faire pour quand tu as les désirs qui sont décalés, se retrouver en fait, gentiment mais sûrement ?
Bon, là, ça va être un petit peu dans le même parallèle que tous les couples. Là, c'est vraiment là où les deux chemins se rejoignent finalement. C'est reprendre le temps d'écoute, le temps de vouloir être touché à certains endroits ou pas, encore cette cartographie du corps. Ça montre bien qu'elle est mobile, tu vois, dans le temps, c'est selon ce qu'on vit, etc. Mais il y a des moments où on impose que des endroits, on leur fout de la paix et on les laisse tranquilles.
Comment on préserve la complicité, mais sans la sexualité ? Enfin, en fait, c'est juste peut-être retrouver ce côté confident, ami avec sa partenaire, je pense, déjà.
Bah, retrouver tout ça, ça fait partie des temps de qualité. C'est vraiment se dire, bah, tiens, on se fait un week-end là, on prend du temps pour nous là, on se mastient à la maison là, on organise un cocktail là. Enfin, ça paraît des petits trucs, des petits jeux qui ont l'air inoffensifs, mais finalement qui nous font énormément du bien. On respire dans ces moments-là.
Comment t'introduis justement cette notion de jeu, de tendresse et de sensualité ?
Bah, tu peux l'introduire. Il y a un jeu que j'aime beaucoup proposer à mes patients, qui s'appelle CERD. Et justement, c'est deux tas de cartes que tu divises entre les deux. Et c'est, par exemple, tu prends une carte, tu es au restaurant. Si tu as envie de lui voler sa pizza, bah, tu peux parce que tu as l'échange de pizza.
Ah non, pas la nourriture, Joey.
Et, oui, si. Je ne suis pas Joey, moi. Et ça peut être aussi, bah, là, tu es obligé, entre guillemets, hein, des grandes obligations, mais de m'emmener voir le meilleur coucher de soleil du coin. Là, on est obligé d'aller faire un cinéma, mais par contre, on y va en chaussons. Enfin, des trucs un peu, hein, qui paraissent un peu débiles, mais finalement, qui sortent un petit peu de la zone de confort sans trop aller loin et qui nous font des beaux souvenirs.
Ouais, c'est un peu réinventer son plaisir avec l'autre, ses moments de tendresse.
Puis on sent que ça va pas, on se fait notre propre boîte à la maison.
Exactement. Si justement c'était une occasion de redécouvrir d'autres formes de plaisir.
C'est ça, parce que les plaisirs en couple, il faut toujours qu'ils soient divers. Le plaisir ne peut pas venir que de la sexualité. C'est du bien vivre ensemble, c'est des moments qu'on va passer avec ses amis, avec sa famille. Vraiment, c'est l'entièreté finalement de toute ta vie sociale qui va faire que tes plaisirs, tu les as partout. Tu peux prendre plaisir au cinéma si t'aimes ça. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble qui peuvent te tendre à avoir envie de faire l'amour, mais pas obligatoirement.
Et en plus de cette petite touche de spontanéité, on va dire, il y a aussi, alors j'aime pas trop le terme, mais des outils, alors on va plutôt dire des jouets, je pense, autant les franco, pour accompagner cette redécouverte de soi, quels sont-ils ?
Alors là, c'est d'une grande tristesse parce que j'avais une personne que j'adorais beaucoup qui avait une société qui s'appelait Nu et qui avait justement fabriqué, enfin conçu en tout cas, des jouets où ils étaient en forme de petits cônes comme ça. Donc ça faisait très finalement déco, hein. Tu le mettais sur un meuble, personne ne savait que c'était un jouet. Mais la taille était faite pour que ce soit de la taille d'un petit doigt au départ pour aller... Enfin, plus large au bout, c'était vibrant mais t'étais pas obligé de mettre la vibration, etc. C'était vraiment un jouet qui était adaptable pour tout le monde, même des femmes qui avaient des douleurs. C'était un peu même le but de la démarche, c'est se dire mais finalement on a un jouet qui n'est pas forcément de taille, enfin de forme phallique, qu'on peut adapter. Et ça, c'est toutes des choses qui peuvent être intéressantes. C'est retrouver son corps doucement par des textures, par des gels, du froid chaud, des choses qui peuvent sentir bon, des odeurs. C'est vraiment aller dans, là encore une fois, la sphère érotique pour que les moments soient beaucoup, beaucoup plus riches de sens.
Et justement, dans cette phare érotique, je sais qu'il y a différentes manières un peu d'aborder ça, mais il y a tout ce qui était slow sex, auto-érotisme, massage, qu'on en a parlé beaucoup aussi par le passé. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces approches ?
Moi, il n'y en a pas une à mettre à la poubelle, pour moi. Par contre, ça ne doit pas devenir des injonctions non plus. C'est vraiment se dire qu'on a, on va dire, comme tu disais tout à l'heure, des outils, c'est-à-dire qu'on a la boîte Facom devant nous, d'outils. On se sert de ce qu'on veut, on peut même essayer certains outils, se dire bon, finalement, c'est pas pour moi, on repose, on s'en fiche. C'est pas parce que, comme je disais pour les jouets, le womanizer, c'est le truc le plus vendu, que nous, on est obligé de prendre du plaisir avec un womanizer si on s'en tape la cruche. Enfin, c'est, chacun doit vraiment adapter sa sexualité et ne pas se comparer aux voisins. C'est, on prend pour soi.
Est-ce qu'on peut réussir à retrouver du plaisir après un deuil corporel, on va dire ce terme, parce que c'est le seul qui me vient.
C'est totalement possible. Hein. C'est, on n'est pas mort soi-même. On vit une mort. Ça fait partie aussi, malheureusement, du champ de la vie. Et c'est s'en rappeler un petit peu. C'est faire tout ce travail de deuil qui, pour moi, doit être accompagné par des professionnels. Je pense qu'on y arrive beaucoup mieux accompagné, ou au moins de proches qui nous comprennent vraiment. Et faire un travail sur soi, dans le sens où plus la compréhension va se faire, plus facile finalement sera le terrain, et faire preuve de beaucoup d'empathie envers soi-même. C'est pour moi la plus grande clé. Et après, ce chemin qu'on disait de on s'autorise des moments où on a le droit de vivre et de se faire du bien, de rire. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, en général, on y retourne doucement.
Est-ce que tu aurais un témoignage propre à cette partie-là ? Sur le deuil corporel, sur peut-être la fausse couche ou une grossesse en elle-même, bien ou mal vécue, ou qu'importe.
Oui, alors j'ai quelque chose qui, moi, m'avait frappé à l'époque. C'est quelqu'un qui vit effectivement une grossesse avec son conjoint. On va dire que c'était une grossesse un peu surprise. Et finalement, elle perd le bébé. Et le fait que la décision soit
à l'unanimité.
Non, c'était finalement, elle souhaitait être enceinte. Par contre, c'est arrivé par surprise. C'était pas du tout un enfant dans le dos ou ce genre de choses. Elle a malheureusement perdu ce bébé-là. Lui ne l'a pas forcément compris, effectivement, parce que comme il n'était pas du tout dans une visualisation de la paternité, on va dire qu'il l'a pas pris du même acabit. Mais par contre, les gens autour n'ont pas compris son comportement après cette fausse couche. Où, effectivement, première chose, c'est elle se sent délaissée par son compagnon. Elle fait l'erreur de le tromper. Et tout de suite, t'as vu ce que t'as fait. Et en plus de ça, tu me fais un gosse dans le dos et machin. Alors, moi, je ne juge personne dans tout ça. Mais c'est simplement que tant que, pour moi, on n'a pas vécu une fausse couche, qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est un peu comme les personnes qui sont victimes de viol qu'on retrouve faire le dans le milieu de la prostitution juste après. On n'arrive pas à comprendre. On se dit, mais il y a eu un viol et là, elle se retrouve dans le milieu de la prostitution. Mais il y a une telle déconnexion du corps qu'on est incapable de comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc pour moi, c'est les avis. On peut les avoir, mais les jugements, non.
Eh bien... Pour ce riche sujet, en tout cas encore merci Chloé. Le prochain sujet est à découvrir sur Instagram, sexploration.lucille.bac. Si ça t'a plu, si cet épisode t'a fait vibrer, partage-le, note-le, parle-en. On se retrouve chaque jeudi pour casser la routine. À bientôt. Bisous, bisous.
Bisous.